Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, Accent d'Europe vous emmène en voyage aujourd'hui, dans un voyage lent qui laisse défiler les paysages. Je veux vous parler du train évidemment, et le premier d'entre eux reste dans l'imaginaire collectif grâce aux innombrables films et romans, notamment la célèbre enquête d'Hercule Poirot, ou au moment de l'histoire comme la signature de l'armistice en 1918. Le légendaire Orient Express qui assurait la liaison Paris-Istanbul a fait son dernier voyage en 1977. La SNCF réfléchit désormais à une éventuelle remise sur les rails de ce train mythique. Il y a quelques semaines, la compagnie ferroviaire française a présenté plusieurs voitures Art déco, fraîchement rénovées, et elle est revenue sur la découverte d'un train abandonné à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie. Juliette Rangeval.
This is no ordinary train. This is the legendary Orient Express. Witness to many strange adventures and foreign intrigues, from Istanbul to Calais.
Des têtes couronnées, Marlène Dietrich, Mata Hari, Hercule Poirot, tout se mêle à bord de l'Orient Express, l'histoire du début du XXe siècle, le roman, le cinéma, tout cela dans un luxe absolu que décrit Arthur Mettetal en traversant les voitures rénovées. Il est le responsable du patrimoine de l'Orient Express.
Les décors que vous voyez, donc les marqueteries, l'aménagement, le bar, les fauteuils, sont toujours et systématiquement associé au style Orient Express. Mais en fait, c'est la réplique de cette voiture qui a été utilisée dans Le Crime de l'Orient Express en 73 de Sidney Lumet.
Wagon de cinéma, mais qui a roulé sur d'autres trajets. Seuls les puristes font la différence finalement. Les passionnés de train, et ils sont nombreux, se pressent eux pour admirer les voitures restaurées. Ça commence avec le personnel de la SNCF, responsable de maintenance, agent d'escale ou contrôleuse. Tous profitent d'un petit moment dans leur journée pour monter à bord et faire des photos.
Prendre le train, c'est toujours une part de rêve, bien sûr.
C'est trop beau. Les matières, la restauration, le bois, on replonge dans une autre époque.
Ça ressemble pas à ça, les trains.
Ah bah non, pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup plus de sièges.
C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de sièges, il y en a plein.
C'est du confort. C'est le grand luxe.
Ce confort absolu, il séduit aussi à l'étranger, comme ce Saoudien venu ce soir-là, accompagné de Jack Lang, le président de l'Institut du Monde Arabe. Les responsables de la SNCF se pressent autour d'eux. L'Orient Express symbolise un art de voyager que la compagnie ferroviaire rêverait de remettre au goût du jour. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF.
C'est vrai qu'on a envie de faire revivre l'expérience de l'Orient Express. Tant de personnes rêvent de faire quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres dans ce train pour retrouver l'esprit des grands voyages qu'il y avait au 19e siècle. Donc oui, il y a plusieurs projets. On travaille là-dessus avec Accor, qui est notre partenaire, pour trouver un destin à ce train extraordinaire que nous avons retrouvé.
13 voitures qu'Arthur Mettetal a retrouvées à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie.
Quand on est arrivé là-bas, on s'est retrouvé dans une zone de transbordement entre la Biélorussie, qui a un écartement de voies différent de l'écartement polonais et européen. Donc en fait, on est sur une vaste zone ferroviaire avec le fret polonais, le fret biélorusse, etc. Donc c'est très industriel. Et au milieu de cette grosse zone d'activité, on avait un espèce de talus qui remontait sur une zone qui permettait en fait de décharger du charbon. Donc c'était assez magique. Et on avait donc cette rame de 13 voitures qui était posée au milieu de ce truc-là.
9 voitures lit, 2 salons, une voiture douche et un fourgon presque intact.
On est vraiment tombé sur une rame en bon état, notamment avec ses éléments d'art, c'est-à-dire des panneaux de verre-lalis qui étaient présents, des marqueteries proues qui étaient présents. Alors évidemment, il y avait du cuivre qui avait disparu, mais en fait, l'intégrité des voitures n'était pas menacée et c'était unique, ouais, comme découverte.
Il ne reste plus aux voyageurs qu'à gagner la gare. Le train, confortable trait d'union, l'emmènera au soir tombant, laissant loin derrière lui les nuages bas et la pluie monotone.
Aujourd'hui, les voitures ont été acheminées en France par camion. Elles vont être restaurées. Pendant ce temps, la SNCF et le groupe Accor, son partenaire, réfléchissent à l'avenir de ce train. La décision doit être prise pendant l'été.
Le train roule, traversant la nuit, emportant vers le jour ses habitants provisoires qui, en toute place, ont trouvé le repos et le sommeil.
Des trains célèbres, il en existe d'autres en Europe, comme le train bleu, le transsibérien ou le Flying Scotsman. La machine à vapeur conçue en 1923 à Doncaster, dans le nord de l'Angleterre, pour relier Londres à Édimbourg, en Écosse, a été retirée du service en 1963. Mais l'Écossais volant, littéralement, sort de sa retraite pour le cinquième été consécutif et pour le plus grand bonheur des amateurs du train. Marie Billon.
Ils seront des centaines à se presser aux abords des rails reliant les gares de Crewe à Carnforth, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Un seul objectif, voir passer le Flying Scotsman. À bord, il y aura les chanceux qui auront pu dépenser 365 € par couple pour avoir le privilège d'être emmenés en grande pompe par les 150 tonnes que pèse la locomotive. Champagne et déjeuner à 7 plats seront servis aux passagers qui feront le trajet aller au moteur diesel avant de retourner vers Crewe à la vapeur. C'est que la locomotive est gourmande. Elle consomme 20 kg de charbon et 181 litres d'eau par mile, soit 1,6 km. La fameuse locomotive verte avait acquis son nom dès 1924 lors de l'exposition de l'Empire britannique. Et pourtant, elle n'avait pas encore battu de record. Le premier est homologué 4 ans plus tard, quand elle devient la première locomotive à relier Londres à Édimbourg sans arrêt. En 1934, elle est la première à atteindre les 160 km/h. Et même dans sa retraite, entamée en 63, elle continue à se faire remarquer. En 1989, elle est emmenée en Australie pour compléter le plus long trajet sans arrêt jamais effectué par un engin à vapeur, 679 km en Nouvelle-Galles du Sud. Mais ce nouvel exploit a failli ne jamais se produire, car 20 ans plus tôt, en 69, la locomotive s'est retrouvée coincée aux États-Unis. Son propriétaire, un passionné de train qui venait de l'acheter, l'a fait rouler sur les rails américains, mais à perte. Il a donc fait faillite. Et le Flying Scotsman n'est ramené au Royaume-Uni qu'en 1979. Grâce aux fonds levés par un autre enthousiaste. En 2004, le train est finalement racheté par le Musée des Transports. Jouissant d'un nouveau modèle économique plus stable, la locomotive passe désormais ses hivers au chaud, au musée, avant de partir en vadrouille aux quatre coins de la Grande-Bretagne pendant la belle saison.
Lui, il est toujours en activité. Il fait le plein pendant les vacances, comme chaque année depuis plus de 40 ans. La ligne ferroviaire qui relie Belgrade à la ville côtière de Bar au Monténégro est l'une des plus belles des Balkans. Longue de plus de 400 km, elle est également spectaculaire avec ses 250 tunnels et plus de 400 ponts pour faire passer le train sur un terrain difficile de montagne. Laurent Gélin.
On dit d'elle que c'est certainement l'une des lignes de chemin de fer les plus belles au monde et tout amateur de train qui se respecte se doit d'y être monté au moins une fois. Inauguré par le maréchal Tito en mai 1976, le train international numéro 433 emprunte 254 tunnels et 435 ponts pour percer les montagnes des Balkans et arriver sur la côte adriatique. Une vingtaine de kilomètres avant Podgorica, la capitale du Monténégro, ces vieux wagons s'élèvent même à plus de 200 mètres au-dessus du sol en traversant le pont de Mala Rijeka, le viaduc ferroviaire le plus haut d'Europe. La ligne Belgrade-Bar est aussi le symbole d'une époque révolue, celle du socialisme autogestionnaire triomphant, capable de faire plier la nature à la volonté des hommes, quand le plein emploi assurait à tous des vacances sucrées au bord de la mer. Aujourd'hui, les vieux wagons fonctionnent toujours, mais la vitesse a été réduite en raison de la vétusté des équipements, des précautions qui n'empêchent cependant pas les accidents. Le 23 janvier 2006, 45 personnes ont trouvé la mort lors du déraillement de leur train tombé dans un ravin après le tunnel de Bioche. Depuis, bien peu de travaux de modernisation ont été entrepris, mais qu'importe, tant que la future autoroute qui doit relier la Serbie à la côte monténégrine n'est pas terminée, la ligne Belgrade-Bar reste encore plus rapide que la voiture et bien plus pratique pour se faire des amis.
Et puis, il y a ces nouvelles destinations touristiques qui misent sur le réchauffement climatique. C'est le cas pour un voyagiste allemand qui s'est associé aux Russes pour proposer un voyage en train dans l'Arctique, de la Russie jusqu'à la Norvège. Début juin, un premier voyage a été lancé depuis Saint-Pétersbourg avec 91 voyageurs à bord. Étienne Bouche.
Tsarengold, en français l'or des tsars. C'est le nom de ce nouveau train composé de 8 wagons-lits et de 2 wagons-restaurants avec moulures et nappes blanches. Ce train de première classe a effectué son premier départ début juin à Saint-Pétersbourg, avec à son bord 91 passagers, des touristes venus des États-Unis et de différents pays européens. C'est dans la deuxième ville de Russie que commence ce voyage de 11 jours. Le Tsarengold traverse la République russe de Carélie, une région réputée pour ses églises traditionnelles en bois et ses lacs. Le train s'arrête à Petrozavodsk, au bord du lac Onega, et remonte ensuite vers Kem, traditionnel point de départ vers les îles Solovki. Le délabrement poétique carélien laisse ensuite place au décor industriel de Mourmansk, la plus grande ville au monde située au-delà du cercle arctique, au bord de la mer de Barents. Les voyageurs descendent alors du train et poursuivent leur périple en autobus. Ils traversent la frontière et rejoignent la ville norvégienne de Kirkenes. Pour la suite du voyage, deux possibilités, en bateau jusqu'à Oslo ou bien en avion vers l'extrême nord, direction l'île de Spitsberg. Pour participer à cette traversée de 11 jours, il faut compter au minimum 3 500 €. Ces dernières années, l'intérêt pour le Grand Nord est croissant. Et si les compagnies touristiques canadiennes et norvégiennes proposaient déjà des voyages dans les territoires reculés de ces pays, le potentiel touristique russe restait peu exploité. Les touristes y sont encore peu nombreux, en raison notamment des contraintes administratives liées à l'obtention d'un visa russe. Le train de Tsarengold entend séduire une clientèle aisée et soucieuse de sortir des circuits balisés. Il devrait circuler à l'avenir jusqu'à 2 fois par an.
C'est une destination touristique moins connue et pourtant qui attire plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année, pour la plupart étrangers. Amiens, dans le nord de la France, avec son édifice colossal, chef-d'œuvre de l'art gothique. Les touristes se pressent pour admirer l'une des plus grandes cathédrales gothiques d'Europe, 2 fois Notre-Dame de Paris, tout de même. Le monument religieux est célèbre pour ses riches ornements et sculptures, mis en valeur chaque année par un spectacle Son et Lumière. Reportage Lise Verbeck.
C'est la cathédrale de tous les superlatifs. Notre-Dame d'Amiens fait 200 000 mètres cubes, 7 700 mètres carrés au sol et 42 mètres de hauteur sous voûte. Sa flèche en bois recouverte de feuilles de plomb est la plus ancienne de France. Chaque année, plus de 750 000 personnes franchissent la porte de l'édifice, comme cet Anglais ébloui par la beauté du lieu.
C'est une cathédrale magnifique, un édifice superbe, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Je trouve que bien sûr Notre-Dame de Paris est très belle, Chartres aussi, mais ici, la hauteur est incroyable. Elle nous amène à lever les yeux vers le paradis comme on l'imaginait au Moyen-Âge. Ces édifices médiévaux nous transportent toujours autant. Ils nous portent l'âme.
The Middle Ages is the Gothic style of architecture. Plus de 400 statuettes ornent la façade principale, aujourd'hui de couleur pierre, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Ces personnages ont été peints à l'achèvement de la cathédrale.
Émilie Messian, directrice du patrimoine à Amiens.
Et pendant de très nombreuses années, puisque selon les portails, eh bien, les restaurateurs ont redécouvert jusqu'à 26 couches de peinture successives, notamment donc, au portail de la Mère Dieu. Et cette cathédrale était donc peinte aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et elle représentait donc cette Jérusalem céleste. Donc on avait vraiment l'impression de découvrir un paradis sur terre.
Et pour découvrir ce paradis, il faut attendre la tombée de la nuit. Pour un spectacle de son et lumière, la foule se presse sur le parvis. Dès les premières projections de lumière, à l'aide de 3 puissants vidéoprojecteurs, les spectateurs mitraillent de photos.
C'est super beau.
Chroma reconstitue la façade du XIIIe siècle.
Des historiens ont pu travailler aux différentes hypothèses plausibles. Donc toute une étude comparative a été menée sur la statuaire polychrome de l'époque, en se disant que si au XIIIe siècle, le manteau de la Vierge est plutôt bleu que blanc avec des fleurs de lys, par exemple, eh bien on va plutôt opter pour cette couleur-ci. Donc on est parti aussi sur toute une base de comparaison et de suppositions pour pouvoir proposer cette restitution.
Les spectateurs, des Amiénois, mais aussi beaucoup d'Anglo-Saxons, sont bluffés.
Le réglage était parfait sur les jeux de lumière qui se calaient en fait à tous les détails de la cathédrale. On la voit sous un autre visage, ouais. D'autant plus belle.
C'est notre première visite ici.
C'est incroyable, fabuleux. Tout le spectacle de lumière et la beauté des couleurs.
Je pense que mon passage préféré, c'était quand il y avait plein de couleurs flashy, comme un arc-en-ciel.
Car le spectacle va au-delà de la reconstitution du Moyen-Âge et fait de la façade un véritable tableau de pop art.
Il s'agit d'un projet qui a été mené avec des enfants amiénois, où le service patrimoine d'Amiens Métropole a demandé à ses enfants de nous proposer ce que pourrait être pour eux une cathédrale en couleur au XXIe siècle. Donc ce sont tous ces dessins d'enfants qui ont été mixés et qui sont proposés sur la façade pour que ces jeunes publics puissent s'approprier aussi leur patrimoine. On se dit que ce patrimoine n'est pas figé, qu'il bouge et qu'il s'approprie aussi au fur et à mesure des générations.
Un spectacle poétique et envoûtant, vu déjà par des centaines de milliers de personnes.
Fantassins, 270 cavaliers, 196 véhicules, des avions et des hélicoptères. Comme chaque année, le défilé sur les Champs-Élysées attire des dizaines de milliers de badauds. Rien que de très classique, donc, dans cette fête nationale qui en célèbre une autre, celle de la Fédération de 1790. Mais le défilé avait impressionné Donald Trump il y a 2 ans et il a voulu le reproduire cette année à Washington pour le 4 juillet. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens ? Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors Daniel, ce défilé du 14 juillet est-il vraiment unique en Europe ?
À défaut d'être unique, Catherine, il apparaît exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, il est ancien puisqu'il se déroule chaque année le jour de la fête nationale depuis 1880 et ne s'est interrompu que durant les 5 étés de l'occupation allemande et de 1925 à 1929 où seule une simple revue des troupes a été organisée. Il est par ailleurs imposant puisqu'il réunit 4 à 5 000 militaires en costume d'apparat et le meilleur de la technologie terrestre et aérienne de l'armée française. Rien à voir cependant avec le gigantesque défilé de la victoire du 14 juillet 1919 qui avait réuni plusieurs dizaines de milliers de militaires défilant entre la Porte Maillot et la Place de la République. Notons que la descente des Champs-Élysées n'est apparue qu'au début des années 20, la parade se déroulant avant-guerre à l'hippodrome de Longchamp et par la suite, outre les Champs-Élysées, sur de multiples parcours, Grand Boulevard, Place de la Bastille, des Invalides jusqu'à la Place de la Concorde ou, plus récemment, en 1974, de la Bastille à la République. Ce n'est que depuis 1981 que le défilé est définitivement fixé de la place de l'Étoile à la place de la Concorde.
Pas d'équivalent donc pour ce défilé.
Ce n'est pas le plus imposant des défilés en Europe, car plus de 13 000 soldats et officiers russes défilent tous les 9 mai à Moscou pour fêter la victoire sur l'Allemagne nazie. Et ce n'est même pas le plus ancien, puisque le salut aux couleurs britanniques célèbre à Londres l'anniversaire du souverain depuis 1746.
Et les fêtes nationales donnent-elles toujours lieu à des défilés militaires ?
Pas forcément. Ainsi, pas de défilé militaire en Scandinavie, ni en Allemagne, où la fête nationale est depuis près de 22 ans fixée au 3 octobre, jour anniversaire de l'unité allemande, rétablie le 3 octobre 1990. Mais l'enthousiasme populaire autour de cette fête nationale est limité, et elle est avant tout un jour férié comme un autre. Quelques manifestations officielles sont cependant organisées, dont la plus importante se déroule dans la capitale du Land, qui préside le Bundesrat. On y célèbre un service religieux œcuménique, mais ni défilé militaire, ni grande fête populaire.
Est-ce qu'on défile au sud de l'Europe ?
Oui, que ce soit en Italie, en Espagne ou au Portugal, l'armée défile. En Espagne, la fête de l'Hispanité, qui est la fête nationale depuis 1958, se déroule tous les 12 octobre pour commémorer l'arrivée en Amérique de Christophe Colomb et la naissance de l'Empire espagnol. C'est une fête assez contestée dans la mesure où elle a été instaurée par le régime franquiste et qu'elle célèbre à la fois l'armée et la colonisation espagnole de l'Amérique. Un imposant défilé militaire est organisé à Madrid, et il est de même ampleur que celui du 14 juillet en France.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. Merci Daniel et à bientôt.
À bientôt Catherine.
Olivier Roux était à la réalisation et à la mise en onde aujourd'hui. Accent d'Europe est à retrouver bien sûr sur notre site RFI et sur Facebook.